7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et avec Diane Berger pour le journal de 7h30.
Halte aux drones tueurs. À Vienne, la communauté internationale se penche sur la régulation de ces robots capables de massacres à l'aide de l'intelligence artificielle. Le gouvernement français veut allonger le délai de carence pour les allocations chômage. Et les inondations à répétition ont eu raison de l'école de musique de la petite commune d'Arc dans le Pas-de-Calais.
Après le journal L'Écho du Monde, une défense européenne qui serait également nucléaire, idée lancée par le président jeudi dernier. L'analyse de Christian Macarian, suivie du journal imprévisible de Marc Bourreau, consacré à Gérard Depardieu dans son plus mauvais rôle. Et enfin, le décryptage de David Barou qui propose de construire 4 réacteurs, EDF propose de construire 4 réacteurs nucléaires en République tchèque. Et il nous dira ce qu'il y a derrière cette offre. Il n'est pas trop tard pour que l'Ukraine l'emporte face à la Russie.
C'est le message encourageant du chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, à Kiev hier, malgré les récents revers de l'armée ukrainienne sur le front. La guerre en Ukraine où Moscou expérimente déjà des drones d'un genre nouveau, des engins kamikazes capables d'identifier seuls les cibles à frapper. Un armement qui pose forcément question. En décembre, 150 pays ont approuvé une résolution des Nations Unies pour réguler ces engins. Marc Tédé, l'Autriche réunit depuis hier une conférence internationale sur le sujet.
Les armes capables d'identifier et d'ouvrir le feu sur une cible sans intervention de l'homme sont un avantage stratégique, mais leur usage doit être encadré, estime depuis Vienne Anne-Sophie Saint-Père, coordinatrice française de la campagne contre les robots tueurs qui regroupe plusieurs ONG.
Il y a la question éthique, ne pas laisser des machines décider de la vie ou de la mort d'un humain. C'est une ligne rouge morale fondamentale. Il y a aussi des problèmes de droit international. Aucun algorithme n'est capable de faire la distinction entre les combattants, les soldats hors de combat, les civils prenant part aux hostilités. Donc aujourd'hui, autoriser des armes autonomes qui cibleraient les humains entraînerait nécessairement des violations du droit international.
Mais légiférer sur ces armes autonomes est aussi un enjeu de sécurité et de stabilité.
Il y a les questions du piratage de ces armes, la prolifération. Une fois que les logiciels sont créés, ce n'est pas forcément des armes qui vont être très compliquées à répliquer. En tout cas, ce sera moins compliqué à répliquer que l'arme nucléaire. Donc en fait, on peut commettre des massacres à plus grande échelle avec moins d'hommes derrière les machines. C'est beaucoup plus facile pour des groupes terroristes, criminalité organisée, de s'y approprier.
Face au progrès fulgurant de l'intelligence artificielle, le temps presse. Des pistes seront proposées en septembre à l'Assemblée générale des Nations Unies pour une entrée en vigueur au plus tôt en 2026.
C'était un sujet de Marc Tédé.
La guerre permanente, l'ultime stratégie du Kremlin, ouvrage de Marie Mandras que je reçois à 8h15. C'est l'invité de la matinale ce matin.
L'attente au Proche-Orient, le Hamas prépare sa réponse à l'offre de trêve avec Israël. Le texte prévoit un cessez-le-feu de 40 jours et la libération d'otages en échange de plusieurs milliers de prisonniers palestiniens. En France, ce sont aujourd'hui les 10 ans de la DGSI, la forme actuelle du service des renseignements intérieurs. À l'origine uniquement composée de policiers, la DGSI s'est étoffée pour recruter des profils venus de la société civile, plus adaptés aux menaces d'aujourd'hui, Julie Drouin.
Avec les cyberattaques, le terrorisme islamique ou la criminalité organisée, les services de renseignement ont dû se doter de nouvelles compétences plus techniques, comme des ingénieurs spécialistes de la cyberdéfense ou de l'investigation numérique. Des profils très recherchés et donc aux rémunérations élevées, explique la spécialiste des questions de sécurité, Béatrice Guillaumin.
Ce sont des secteurs extrêmement concurrentiels. Dans l'administration, c'est quand même difficile de venir concurrencer les salaires qui sont proposés dans le privé. La concurrence est tellement rude que les services ont du mal à recruter ce type de profil.
La DGSI recherche aussi des spécialistes de géopolitique, des sociologues, des universitaires, ainsi que des linguistes et des traducteurs, notamment ceux qui maîtrisent le chinois, le russe ou l'arabe. Mais l'aspect sécurité inhérent au poste complique le recrutement.
Souvent, ce sont des personnes qui ont connu des périodes d'immersion dans les pays visés, donc ont créé une sorte d'ancrage, des attaches familiales, des attaches amicales, ce qui peut poser des problèmes en termes d'habilitation au secret de la défense nationale, puisque ces profils constituent également des vulnérabilités pour les services.
Les contractuels civils représentent aujourd'hui plus de 15% des effectifs. Mais servir la nation ne dure qu'un temps. Et ce passage au sein du renseignement français conduit souvent vers le privé.
Julie Drouin. À Châteauroux, l'adolescent de 15 ans interpellé le week-end dernier, mis en examen et écroué après le meurtre de Mathis, ce jeune poignardé au cœur dans une rixe samedi après-midi. La mère du suspect a également été mise en examen, soupçonnée d'avoir giflé la victime après les coups de couteau.
Vous écoutez Radio Classique, il est 7h35. Augmenter le délai de carence pour les salariés licenciés ou ayant signé une rupture conventionnelle.
C'est la nouvelle piste avancée par l'exécutif pour réformer le système des droits au chômage. La ministre du Travail l'a évoqué devant certains représentants syndicaux la semaine dernière. Et à la veille des mobilisations traditionnelles du 1er mai, les syndicats ne sont pas emballés, Romane Brizard.
6 mois maximum après la rupture de contrat pour percevoir ses droits, comme aujourd'hui, c'est le bon délai, estiment les syndicats. Le rallonger fragiliserait le système, pense-t-on du côté de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Cela pourrait par exemple, sous la pression, amener certains demandeurs d'emploi à signer trop rapidement pour un poste qui ne leur correspondrait pas. Même son de cloche côté CGT qui dénonce un durcissement scandaleux au moment où les licenciements économiques se multiplient. Retarder ces allocations reviendrait à reprendre les indemnités de licenciement obtenues par les salariés après un plan social, illustre un syndicaliste. Quelles économies pourraient rapporter cette mesure ? Le ministère ne s'est pas encore prononcé sur ce point et tente plutôt de faire oublier, je cite, cette fuite. Toutes les pistes sont sur la table, martèle le cabinet de Catherine Vautrin.
Romane Brizard.
Une question au programme des députés cet après-midi, comment rouler plus vert dans le monde de demain ?
La proposition de loi sur le verdissement des flottes d'entreprises arrive dans l'hémicycle. Le texte est soutenu par la majorité et il prévoit que 90% des nouveaux véhicules achetés par les sociétés en 2032 soient électriques. Objectif à terme, décarboner tout le secteur automobile, Lucie Dupressoir.
Depuis 2021, les entreprises suivaient les objectifs de la loi d'orientation des mobilités pour verdir leurs véhicules. Pas assez ambitieuse pour Damien Adam, auteur Renaissance de la proposition.
Entre 50 et 60% des entreprises ne respectent pas leurs obligations actuellement. Moi, ce que j'observe quand je discute avec les entreprises, c'est qu'ils n'en ont pas fait forcément un sujet majeur en interne, parce qu'il n'y avait pas forcément de sanctions.
Le texte débattu aujourd'hui prévoit d'abord une amende de 2000 euros par voiture propre manquante dans le renouvellement de la flotte. Mais pour le député, les entreprises n'auront pas de difficulté à se tourner vers l'électrique.
En 2032, la plupart des constructeurs automobiles présents sur le continent européen et particulièrement en France n'auront plus que des véhicules électriques à proposer.
Car à partir de 2035, ils n'auront plus le droit de vendre des voitures thermiques. Et par effet ricochet, les ONG espèrent décarboner tout le marché. Pierre Lefleuve, responsable transport chez Réseau Action Climat.
Le véhicule électrique reste cher et va rester cher dans les années qui viennent. Et donc il faut trouver une solution pour que ce ne soit pas seulement un moyen de transport pour les plus aisés, mais qui puissent également se retrouver sur marché d'occasion. Et pour ça, les entreprises sont un acteur essentiel parce qu'elles représentent plus de 60% des achats de véhicules neufs. Et c'est des véhicules qui se retrouvent d'ici 3 à 4 ans après leur achat sur le marché d'occasion.
Mais à ce stade, le podium des voitures de fonction est encore 100% thermique.
Lucie Dupressoir.
Vous vous en souvenez sûrement des images terribles. Le Pas-de-Calais sous l'eau, c'était l'hiver dernier. Le Pas-de-Calais touché par 3 vagues successives d'inondations.
Près de Saint-Omer, la commune d'Arc va devoir raser entièrement une rue, trop exposée au risque de crue. Les habitants vont être indemnisés. Mais dans cette artère, il y avait aussi une école de musique. Le maire de la ville, Benoît Roussel, est attristé par cette disparition, mais pas résigné.
C'est une école de musique qui est là depuis plus d'une trentaine d'années. C'est tout un symbole, hein, mais malheureusement, il y a eu trop de dégâts. Il y a eu 1 200 000 euros de dégâts dans cette école qui fait presque 1000 mètres carrés. Il y a eu de l'eau à plus d'un mètre. Donc en fait, il faut tout refaire. Et donc, il a été décidé avec la commune d'offrir un terrain un peu plus en sécurité, à une centaine de mètres de là, pour y reconstruire une école de musique et de danse. Autant mieux reconstruire directement un nouveau bâtiment qui coûterait dans les 3 millions d'euros, plutôt que de mettre 1 million d'euros en réparation, sans aucune certitude qu'on ne soit plus inondé.
Le maire d'Arc, Benoît Roussel, il témoignait auprès de Jeanne Serrin.
Merci Diane, rendez-vous à 8h30 pour le rappel des titres. Dans un instant, Christian Macarian revient sur l'idée lancée par Emmanuel Macron jeudi dernier d'une dissuasion nucléaire européenne. Ça fait débat, Radio Classique.